Voilà, alors c'est ce qui s'est passé à un certain moment. Mais le titre complet, c'est Zacharie, deux points, qu'entendre remuer. Hein. Parce que c'est de Zacharie qu'on va parler ce soir. On va l'appeler Zac, que ce soit plus simple, ça fait plus cool aussi. Hein. Zac. Ce Zacharie qui arrive là, à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais si vous avez déjà réfléchi, qui sait d'où il vient. On ne va pas lire tout le texte de biblique, je vous encourage à le faire. Luc 1 et 2, dans cette période, c'est à lire matin, midi et soir, pendant un mois. C'est très utile. Ou, comme je le fais en ce moment, vous pouvez l'écouter, c'est encore mieux que de le lire. Ça, vous aurez l'entrain. Ce monsieur Zacharie, c'est un descendant de très loin, en ligne directe, de la tribu des Lévites, hein, le frère de Moïse. Son épouse aussi. Ça veut dire que c'est des gens... C'est un peu comme, vous savez, quand on est dans l'administration de père en fils, ou dans certains domaines comme ça, ben eux, ils sont sacrificateurs de père en fils depuis des générations et des générations. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là passaient leur vie dans le temple. En fait, ils étaient très nombreux, ouais. C'était des tribus, et puis des tribus qui se multiplient, ils ont des enfants qui ont des enfants. Donc, à cette époque-là, ils avaient des groupes, et puis ils avaient un tournus. Et ça fait que Zac, il travaillait, entre guillemets, il servait dans le temple 2 semaines par an. 2 fois une semaine. Après, on dit que les pasteurs ne travaillent pas beaucoup parce qu'ils ne travaillent que le dimanche matin. Mais sacrificateur, c'était encore mieux parce que c'était 2 semaines par an. Hein. Donc, c'était pas mal. À côté de ça, ben, ils avaient un métier. Moi, quand j'ai essayé de revivre la vie de Zacharie, parce qu'on sait qu'il vivait dans la montagne à côté de Jérusalem, à 1 heure de Jérusalem, je l'ai imaginé paysan agriculteur, parce que c'était très probable. Hein. Quelques oliviers, des figuiers, c'était un peu trop haut. Un peu de lentilles, un peu d'orge, quelques chèvres, quelques moutons, et puis voilà. Donc ça, c'était 50 semaines par an. Et puis 2 semaines par an, il descendait à Jérusalem. Là, il y avait des chambres pour les loger dans le temple. Et ils allaient servir Dieu, faire le service rituel dans le temple. Zac, c'est un homme qui connaissait Dieu, enfin, qui croyait le connaître en tout cas, d'une certaine façon. Et puis, son épouse était apparemment une dame très bien aussi. Elle s'appelle Elisabeth. C'est un beau prénom, n'est-ce pas? Pascal, tu ne vas pas me contredire. Ta voisine non plus. Et Zac et Elisabeth, c'était, aujourd'hui, on dirait vraiment des gens bien, sérieux, honnêtes, qui aimaient Dieu, qui faisaient leur travail consciencieusement, ils élevaient leurs chèvres, leurs moutons, ils allaient au temple, ils montaient, ils descendaient. Mais il y avait un problème dans leur vie, une douleur permanente. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Alors je suppose que pour n'importe quel couple, c'est compliqué de ne pas avoir d'enfant, mais il faut comprendre que dans cette culture et à cette époque-là, une femme sans enfant, c'était la pire chose qui pouvait y arriver. C'était un déshonneur complet. C'était vraiment une honte permanente. C'était considéré comme une malédiction, comme il y avait quelque chose de pas net avec ces gens-là pour qu'ils puissent pas avoir d'enfants. Et c'est ceux qui vivaient depuis des années et des années. Alors, on sait pas leur âge, mais ils avaient en tout cas probablement 25, 30 ans de mariage, donc une bonne cinquantaine d'années. Ce qui fait que si on les avait vus avec notre regard aujourd'hui, on aurait pensé qu'ils en avaient 80, parce que la vie était moins facile qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, ils sont dans cette vie-là où ils ont dû accepter on ne peut pas avoir d'enfants, on n'aura pas de descendants, le regard des autres tout le temps un petit peu. Vous savez, quand vous passez dans le village, vous allez acheter le pain et que les gens ne disent rien, mais quand vous avez le dos tourné, vous allez dire
parce que sûrement que... Parce que...
Hein, voilà. Et ils ont vécu avec ça tout le temps. Et c'est lourd. Mais ils ne sont pas devenus amers, ils ne sont pas devenus aigris, ils ont supporté, puis ils ont continué. Et là, cette période-là, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Parce que dans le temple, il y a déjà, bon, ils n'avaient que 2 semaines par an, mais il y avait une quantité de postes plus ou moins importants. Hein. Et pour savoir qui faisait quoi, on tirait au sort. C'est comme ça depuis l'époque de David, hein, si vous cherchez dans les livres à l'époque, vous trouvez. Et là, on tire au sort, et Zac, il a une très agréable surprise, parce que c'est lui qui va faire le boulot sur l'autel des parfums. Et ça, c'était quelque chose, c'était vraiment c'était très rare. Certains sacrificateurs pouvaient passer toute leur carrière de sacrificateur sans jamais, avec le tirage au sort 2 semaines par an, avoir ce poste-là. Parce que ça se passait dans le temple. Hein. Il y avait ceux qui appelaient la foule dans la cour, et puis là, ben, c'était vraiment l'abattoir et la boucherie. Hein. Vous imaginez des centaines et des centaines de gens à la file indienne qui attendent, chacun avec sa chèvre, son mouton, son poulet, non, pas de poulet, mais sa colombe, son pigeon, son... Hein. Et puis, ben, ça ne devait pas être charmant comme endroit. Hein. Ça tranchait les gorges à la chaîne, ça giclait partout, on mettait cette viande sur le feu, ça sentait la viande cramée, il y avait de la cohue, c'était comme ça, hein. C'était la cour du temple. Mais après, il y avait le poste de choix, derrière les portes et les murs du temple, il y avait l'autel des parfums. Là, c'était quelque chose d'autre. Hein. Il fallait avoir des parfums qui étaient spéciaux, qui étaient très raffinés, et puis on les versait sur le feu, et puis il y avait l'odeur qui s'élevait, et ça symbolisait la prière. Et Zacharie a été tiré au sort pour cette chose-là. Donc c'est déjà exceptionnel. Et il rentre pour faire ce service, et il prépare ses petits parfums. Et là, les portes sont fermées, il y avait des portes très très épaisses, des murs très très gros en pierre, etc. Les portes étaient même plaquées or, en plus du cèdre de 30 cm d'épaisseur. On est vraiment dans du solide. Hein. Si André pouvait retrouver une de ses portes pour sa collection, ça lui plairait. Hein. 30 cm de cèdre plaqué or, un bon centimètre d'or dessus, voilà, de l'époque de Salomon. Et donc, il est à l'intérieur dans le silence complet. Dehors, c'est le tumulte, ça sent mauvais, ça a fumé, les cris. Lui, il est dedans, au calme. Et là, au moment où il va verser les parfums, il se passe quelque chose de complètement inhabituel. Il y a un ange qui lui apparaît. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous de rencontrer un ange comme ça. Moi non, hein, pas encore. À cette période-là, il semblerait qu'il y en ait un qui voyageait pas mal. C'est toujours le même, M. Gabriel, en déplacement. Et puis, il apparaît et il fait une annonce à Zacharie. Alors, il ne lui dit pas « tu vas être enceinte », heureusement, parce que là, quand même, ça aurait été trop. Mais il lui dit « ta femme va être enceinte ». Et Zacharie, j'allais dire, il en reste sans voix, pas encore. Mais il en reste quand même sans voix. Parce que, ben, c'est pas un idiot, il sait comment se font les enfants, il a essayé pendant 35 ou 40 ans, ça marchait pas, puis maintenant, il y a péremption. Et là, je lui dis, tu vas avoir un enfant, et il va être très spécial. C'est lui qui va préparer le chemin pour celui qui sera le sauveur d'Israël. Et Zacharie, il est tellement surpris, et puis ben, il doute, ce qui est tout à fait normal, je pense que je le fais pareil ou pire. Et l'ange lui dit, puisque tu as douté, tu vas être muet jusqu'à ce que cette chose-là s'accomplisse. Et puis il finit de délivrer son message, et l'ange, il se tire, et Zacharie reste tout seul. Et par l'instant, les gens qui sont dehors commencent à s'inquiéter. Moi, j'imagine très bien l'épouse de Zacharie, c'est une femme, elle n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Donc, elle est dans la cour, et puis elle connaît les horaires, et puis elle attend son mari. Et puis elle se dit, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Elle savait très bien qu'à cet endroit, dans le temple, il n'est pas en train de jouer aux cartes avec les copains. C'est sérieux. Hein. Elle se demande, est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il s'est fait foudroyer? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, les portes s'ouvrent, il sort. Et là, tout le monde attend les explications, et Zach, il est... Hein? On dirait qu'il a bu une bouteille de Extreme. Vous savez, ce produit qui enlève les maux de la bouche. Il ne peut plus parler. Hein? Et ben voilà, il ne peut plus parler, et il finit ou pas sa semaine, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des congés maladie ou non, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Mais en tout cas... Quelques jours après, ben, il repart dans les montagnes. Et puis, il avait quand même un avantage, il faisait partie des rares personnes à l'époque qui savaient lire et écrire. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais lui savait. Et son épouse aussi. Donc, il peut communiquer quand même avec sa femme. Les petits messages, c'est super, ça redevient romantique. Hein. Il est obligé d'écrire des petits billets à sa femme. C'est tellement romantique qu'elle tombe enceinte. Comme quoi, des fois, messieurs, on devrait se taire ou parler, je ne sais pas, ça dépend ce qu'on veut. Mais voilà. Et elle tombe enceinte et elle dit, ah, Dieu a vu mon humiliation et lui a répondu. Alors, il faut comprendre ce qui, pour nous, culturellement, ressemblerait à une catastrophe. Hein, vous imaginez, mesdames, vous avez passé la ménopause, vous commencez à être, bon, vous avez accepté pour l'enfant, maintenant c'est la retraite, et là, tout d'un coup, vous tombez enceinte. Dans notre culture, ça serait bizarre. Mais là, c'était la plus belle chose qui puisse lui arriver. Et puis, ben, cet enfant, voilà, après, l'histoire continue, vous la connaissez, ça va devenir Jean-Baptiste. Quand elle va être enceinte de 6 mois, Marie va faire un voyage de presque une semaine pour venir la visiter, lui expliquer qu'elle aussi, elle est enceinte. Et elle aussi, c'est pas la même chose, mais c'est aussi très particulier. Et puis, là, il y a un échange entre ces deux femmes qui est magnifique. C'est pas que je vous dis, c'est les chapitres 1 et 2 de Luc. Il faut les écouter en ce moment beaucoup, 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 parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Et elle s'envoie des cantiques qui vont et qui reviennent. Zacharie entend aussi, il est tout content. Enfin, c'est la grande fête. Mais je veux revenir maintenant sur ce qui s'est passé là dans le temple pour voir en quoi ça peut nous intéresser, nous, 2000 ans après. Parce que bon, voilà, c'est une super histoire, mais c'est un peu loin. Et je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on peut en tirer pour nous. C'est le fait que Zacharie était croyant. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre qui ne soient pas croyants. Quand je dis pas croyants, c'est-à-dire qui pensent réellement que le monde dans lequel on vit est totalement issu de rien et du hasard, et de même, le hasard, ça n'existe pas, donc de rien. Donc après, il y a différents niveaux. Il y a ceux qui croient qu'il y a une vague intelligence, il y a ceux qui croient que cette intelligence, elle a un nom, il y a ceux qui croient qu'elle est confondue avec l'univers, ceux qui croient qu'elle n'est pas, qu'elle en est distincte, etc., etc., etc. Mais c'est pas la même chose de croire que Dieu existe et de le connaître, et puis de croire surtout qu'il peut intervenir dans nos vies. Zacharie était un croyant persuadé. Dans sa culture, c'était presque impossible de ne pas l'être. Hein. Mais il était quand même plus que la moyenne, parce que vraiment, la Bible dit que c'était un homme pieux. Alors c'est un mot barbare. Hein. Moi, ben, je croyais que ça servait à faire des clôtures, les pieux. Mais non, pieux, là, c'est un mot qui veut dire quelque chose de bien. Ça veut dire que ce n'était pas juste quelqu'un qui faisait semblant, il y croyait personnellement. Il était persuadé que Dieu existait, il croyait à l'histoire d'Israël, il croyait à tout ça. Mais quand il voit cet ange et qu'il lui annonce quelque chose pour lui, il ne le croit pas. Est-ce que ça vous paraît étrange? Moi, ça me rappelle mon histoire. Hein. Moi, je crois en général. Ah oui, je crois plein de choses. Mais est-ce que Dieu va me dire quelque chose à moi, va intervenir pour moi, va faire quelque chose dans ma situation à moi? Ben non. Oui, un jour je vais mourir, j'irai au ciel, ça ira mieux. Puis en attendant, ben, faut faire avec. Et c'est intéressant parce qu'en fait, non, il y avait quelque chose pour lui. Et pour ça, pour le comprendre, il a eu besoin de devenir muet. Alors que ce soit un bavard comme moi qui vous parle de ce sujet, c'est assez intéressant. Hein, voilà. Mais ça nous rappelle une chose importante, c'est que pour entendre la voix de Dieu, il faut savoir faire silence. Et quand on ne sait pas silence, Dieu va se débrouiller pour nous rendre muets. Je suis un grand bavard, mais je vous promets qu'il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où je suis resté sans voix. Parce que il m'arrivait des choses que j'avais pas prévues, que je pouvais pas prévoir, que je voulais pas prévoir, parce qu'elles étaient pas agréables, parce qu'elles étaient compliquées, parce qu'elles étaient difficiles, et elles ont eu un effet très positif, elles m'ont rendu muet. J'ai arrêté de dire à Dieu, voilà ce que je vais faire avec toi, voilà ce que tu vas faire avec moi. Vous savez, comme si lui et moi, voilà, hein, on est copains, quoi, et puis, hein, voilà, avec Dieu on a fait ça, non. Dieu laisse des choses arriver dans nos vies, c'est pas forcément lui qui les provoque, il n'y a pas besoin. Mais on reste sans voix parce qu'on n'a plus rien à dire. Ça vous rappelle quelqu'un? Monsieur Job? Le gars parfait, il faisait tout bien comme il faut. Mais alors tout, mais vraiment, hein, tous les matins, le sacrifice comme il fallait, où il fallait, tac, 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 tac. Il faisait même pour ses enfants au cas où ils n'auraient pas fait comme il faut. Enfin, vraiment. À mon avis, c'était l'ancêtre des Suisses. Quoi. Tout était assuré, tout était prêt, parfait. Et là, malgré tout ce qu'il a organisé, il tombe galère sur galère sur galère sur galère sur le dos. Il a plein de théories, mais elles ne sont pas bonnes. Il a des amis qui sont gentils, mais ils n'ont rien compris, c'est une catastrophe. Et finalement, on arrive à la fin de ce livre, c'est aussi un beau livre à lire. Et à la fin, Job dit, vous connaissez, hein, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, et conséquence, je la ferme. » En français courant. C'est ça, c'est qu'avant, il parlait sur Dieu. Et puis après, il s'est aperçu qu'il disait beaucoup de bêtises. Parce que oui, Dieu, le grand Dieu qui a fait l'univers, mais celui qui vient me rencontrer dans ma vie et qui a quelque chose à me dire, il a besoin de silence. Mon cher ami Francis, c'est parce qu'elle a été écoutée sans moi hier, je suis fâché, dit, hein, il y a des choses tellement belles, il n'y a que le silence pour le dire. Il y a des choses tellement belles, il n'y a que le silence pour le dire. Et c'est comme ça dans nos vies. Et on doit passer par l'expérience de Zacharie, c'est qu'à un moment, on doit arrêter de nos théories sur Dieu. Je sais, j'ai appris, j'ai vu, on explique aux autres, etc. Et puis Dieu, comme il est gentil, il ne dit pas « shut up, ferme-la », non. Mais il dit « tu pourrais être muet un petit peu, parce que j'ai des choses à te dire. Et les choses que je veux te montrer, que je veux que tu vois, ben tu ne les vois pas parce que tu es tellement avec tes affaires, tes trucs, puis tu t'attends, hein, il doit être comme ça, il doit apparaître là, dans cette fenêtre, de cette façon, à tel moment. Hein. C'est pas surprenant que personne n'ait reconnu Jésus à Noël. Je suis absolument certain que nous tous ici, si on avait vécu à cette époque-là, on ne l'aurait pas vu. Hein. Parce que franchement, lisez les prophéties, lisez-les bien, et puis après regardez ce qui s'est passé. Franchement, il y a une arnaque. Voilà, c'est pas... Si c'était une chasse au trésor, le gars qui l'a fait, il est mauvais. Quoi. C'est pas possible de trouver. Les textes annoncent le grand roi, il va chasser les ennemis, il va faire ci, il va faire ça, il règnera sur le trône de David, son règne sera éternel. Ça, c'est l'annonce. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit mouflet qui naît dans la paille quelque part, là, avec des parents qui n'ont pas un sou, ils sont personne, on ne sait pas qui c'est. Ils sont obligés de s'enfuir en Égypte. C'est des émigrés. Ils vont se cacher dans un village. Le gars, il est charpentier. Non, charpentier. C'est pas sérieux. Hein. Et puis, jusqu'à 30 ans, il fait quoi? Il fait des tables, des chaises, des toits, rien d'autre. Non, c'est pas sérieux. Finalement, il se met en marche. Qui y prend? 12 pingouins qui savent ni lire, ni écrire, qui ont des mains à faire des mottes, qui sont... comme nous, en beauté, qui savent tout, mais qui savent rien. Et finalement, il meurt. Et il disparaît. Alors, franchement. Nous, on en a fait de Noël, hein, les lumières, le machin, le petit Jésus, les anges. C'est une histoire. Ça ne tient pas de vous, quoi. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu agit. Alors, ce que je voudrais vous laisser pour terminer, c'est pour l'année à venir. Je cumule, hein, c'est Noël, la nouvelle année et tout. C'est un prix de gros. Rien à voir avec le poète, celui qui parle, mais c'est un prix de gros quand même. Et que nous ayons les yeux ouverts, sans avoir décidé à l'avance où, quand, comment Dieu va nous parler. Parce que peut-être ça nous évitera de devenir muets. Si on apprend, et vous comprenez qui c'est qui dit ça, hein, si on apprend à moins parler, et à garder les yeux ouverts, que fait Dieu ? Où il est, où il agit, comment, avec qui, parfois. Hein. Ça rend la vie intéressante. Souvent, les vieux chrétiens, on s'ennuie. Hein. Je lis mon lecteur, je lis mon verset, je fais ma petite prière. C'est pas très romantique, pas très... Hein. C'est, voilà. Mais il faut continuer de faire ça, parce que ça, si, il faut le faire. C'est la bonne routine. Mais en même temps, garder l'œil ouvert. Parce qu'on ne sait pas où il est. Et il a quelque chose à nous communiquer, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, genre devenir enceinte après quand c'est plus possible. Hein. Faire des choses qui... Non, ce n'était pas possible, et il veut le faire. Et puis pour nous permettre de méditer quelques minutes, 4 minutes et quelques secondes, je crois, pour être précis, je voulais vous faire écouter un morceau que vous connaissez sûrement, qui n'est pas récent du tout. Et puis juste, il y a quelques photos qui vont avec ce que je viens de dire, on va... faire attention à ses paroles, et puis les méditer.